Nos ados ont vu tous les Miyazaki, ils rêvent qu'on les emmène au Japon.
Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio.
Incroyable! Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone.
Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé.
Waouh!
Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel.
Oh, je nous y vois déjà.
Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro en direct du Buzz TV de TV Magazine. Nous sommes partis pour une demi-heure de direct avec une actrice capable de nous faire rire dans des comédies le lundi et nous tirer les larmes dans un film dramatique le mardi. En 2009, elle reçoit le César du meilleur espoir féminin pour avoir campé une adolescente rebelle dans Le premier jour du reste de ta vie. Vous l'avez également adorée dans la comédie Ma famille t'adore déjà. À la télévision, elle s'est récemment illustrée dans Le bruit des trousseaux sur France Télévisions et depuis la semaine dernière, elle interprète une mère de famille exécrable dans une série que l'on pourrait qualifier d'utilité publique. Bonjour Déborah François.
Bonjour.
Bienvenue sur le plateau du Buzz TV, c'est un plaisir de vous recevoir.
C'est un plaisir d'être là.
Ah, écoutez, dans ce cas-là, tout va bien, j'ai envie de vous dire. Alors M6 poursuit la diffusion de la série Sauver Lisa, donc c'est ce mardi, en première partie de soirée. C'est une fiction vraiment formidable dans laquelle vous interprétez le rôle d'une mère de famille négligente qui n'hésite pas d'ailleurs à lever la main sur sa fille de 8 ans. Alors j'ai vu quelques épisodes et je vous avoue, est-ce que vous êtes conscient que lorsque l'on regarde votre personnage, on a envie nous-mêmes d'être violent vis-à-vis de cette femme qui justement n'hésite pas à user de la violence pour éduquer sa fille.
Mais c'est tout à fait l'idée. Ouais. L'idée, c'est effectivement de susciter la réaction en fait. Je pense qu'on suscite jamais autant de réactions que quand on montre les choses et quand on prend cette violence en soi. Et c'est très très bon signe que les gens soient indignés justement. C'est l'idée.
Et c'est quoi justement aussi l'objectif de cette série? Est-ce que c'est de générer des discussions dans les foyers, de façon à ce que parents et enfants parlent d'éducation, si j'ose dire, ou bien c'est tout simplement de raconter une histoire qui est assez violente, hein, pour ceux qui ont regardé les deux premiers épisodes.
Oui, c'est une histoire qui est assez violente, et à la fois c'est mêlé de thriller, donc je pense qu'on peut vraiment suivre l'histoire, et il y a quelque chose d'intéressant, et forcément l'idée c'est de faire parler les générations entre elles, d'ouvrir le dialogue dans les familles, et d'ouvrir le dialogue aussi dans les voisins de famille, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas toujours ça, mais moi j'ai pu faire aussi des choses des sujets sur les violences faites aux femmes, et c'est beaucoup l'entourage en tout cas. Donc c'est peut-être aussi dire à l'entourage, quand vous avez l'impression qu'il se passe des choses, peut-être ouvrez les yeux et parlez-en, ne pas rester avec une chape de plomb qui est la chape du secret, je pense que c'est le plus important.
Alors une mère et son compagnon qui maltraitent un enfant, un prof qui veut sauver par tous les moyens son élève, c'est, on va dire, un scénario que l'on pourrait retrouver dans la réalité. Est-ce que cette fiction s'inspire de faits réels ou bien pas du tout?
Cette fiction s'inspire de faits réels généraux, mais pas d'un fait divers en particulier. Okay. C'est vrai que le personnage peut-être de Caroline Anglade est un peu poussé au maximum de son empathie, en fait, vraiment pour cet enfant. Mais c'est des situations que malheureusement on retrouve très très régulièrement.
Ouais, et c'est effectivement très bien retranscrit en tout cas dans cette série dont on va parler dans quelques instants. Je rappelle que nous sommes en direct sur Figaro Live, sur la page YouTube de TV Magazine et sur le figaro.fr. Nous sommes avec Déborah François, vous pouvez lui poser toutes vos questions. Est-ce que vous avez regardé les deux premiers épisodes de cette série, Sauver Lisa? Quel regard portez-vous sur la carrière de Déborah? Dans quel rôle aimeriez-vous la découvrir? Pourquoi pas? N'hésitez pas, toutes vos questions, toutes vos suggestions. On y revient juste après les news médias de Nathalie Chuc. Hello Nathalie.
Bonjour Déborah.
Alors Nathalie, c'est parti avec les audiences de la veille. Quelle chaîne est arrivée en tête hier?
Alors carton plein pour L'amour est dans le pré qui est arrivé leader des audiences haut la main sur M6. Le programme présenté par Karine Le Marchand a réuni une moyenne de 4 500 000 fidèles, soit une part d'audience de 21,2%. Sur France 2, 3 800 000 téléspectateurs se sont passionnés pour la série policière française L'Art du crime, dont c'était le lancement de la saison 5. Et à la troisième marche du podium, grosse déception pour la fiction Service volé, qui n'a pas eu l'avantage des audiences sur TF1. La fiction inspirée de faits réels, justement portée par Julie Debona, a réuni seulement 2 800 000 curieux, soit 13% du public. Et pour finir, une belle performance avec un classique, un film d'action sur W9, Taken. Liam Neeson a tenu en haleine plus d'1 million de téléspectateurs.
Alors, Service volé, hein, qui est une fiction qui traite d'un sujet extrêmement lourd, hein, c'est Julie Debonnat, en fait, qui se glisse dans la peau d'Isabelle de Mongeau, qui est une joueuse de tennis professionnelle qui a été violée par son entraîneur pendant de nombreuses années. En fait, ça raconte vraiment cette histoire-là. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'à la télévision, il y a énormément de fictions sur les violences faites aux enfants. Il y a la vôtre, Sauver Lisa, il y a celle d'hier. On peut également citer M'abandonne pas, qui sera bientôt sur TF1, L'enfant de personne sur France 2, L'affaire du petit Grégory aussi, si on remonte quelques semaines en arrière sur TF1. À un moment donné, est-ce qu'il n'y a pas un trop-plein aussi autour de ces fictions?
Mais je pense que c'est la preuve que c'est un fléau de société et que c'est, ouais, que c'est des sujets qui se perpétuent et qui sont là. Et je pense que c'est une très bonne chose qu'on commence vraiment à en prendre conscience, mmh, et qu'on prenne le sujet à bras-le-corps. Parce que c'est vrai que je pense qu'en France, on est très réticents, mais enfin, il n'y a pas qu'en France, mais à aller dans l'environnement familial et, mmh, et à entrer... la cellule familiale est un peu sacralisée, en fait, je pense, dans notre, ouais, pays.
C'est très tabou.
Et du
aussi.
Coup, il y a ce tabou parce qu'on dit on ne peut pas rentrer dans une famille, ça ne nous regarde pas. Mais en fait, les violences, que ce soit faites aux enfants ou aux femmes, ça regarde tout le monde. Et la violence faite aux enfants, c'est ce qui fait qu'après, les enfants grandissent, peuvent parfois, pas tous heureusement, reproduire cette violence, ou peuvent tomber dans la délinquance, ou peuvent tomber dans l'alcoolisme. Enfin, je veux dire, ouais, c'est la base, en fait, de plein de problèmes de notre société, la violence intrafamiliale. Donc, on devrait peut-être y porter un peu plus attention.
Est-ce que grâce à Sauver Lisa, notamment, vous avez vocation aussi à faire bouger les lignes, par exemple, en suggérant le visionnage de cette série au gouvernement, notamment pour peut-être faire naître une loi? On sait que c'est déjà arrivé par le passé, hein, que la fiction aide aussi et fasse bouger les lignes.
Vous savez, les lois, c'est bien. Après, l'application, c'est toujours un peu plus compliqué. Donc, moi, je pense que c'est plus dans l'application et dans comment on s'occupe de ces gens, ouais, comment on prend en charge les familles, comment on réapprend parfois aux parents qui sont maltraitants à aimer, en fait, parce que c'est vraiment un truc d'amour. En fait, donner de l'amour, c'est pas forcément donner de la violence, mais il y a des gens qui associent ça entre eux. Et c'est souvent des gens qui ont vécu la même histoire. Donc, peut-être qu'il est temps de mettre fin au cycle. Et je pense que ce genre de fiction, c'est intéressant, justement, parce qu'il y a une histoire aussi derrière. Il y a quelque chose de l'ordre du thriller. Donc, c'est une histoire qui est facile à suivre, finalement. Donc, je pense qu'en passant par ce genre de fiction... J'espère que ça peut faire bouger les lignes, c'est le but.
Avant de passer à la deuxième info média, on parle des audiences. 1,6 million de téléspectateurs pour les deux premiers numéros, 7,4% du public, ce qui est un score assez décevant, on va dire. On va être honnête en disant que vous étiez face au football aussi, qui rassemble énormément de supporters. Je crois qu'il y avait 6,5 millions de téléspectateurs.
Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On était faite au
foot. Exactement. En tant qu'actrice.
Franchement, on s'en est hyper bien sorti.
C'est vrai.
On a
c'est
très
vrai.
Bien résisté.
Effectivement.
Pour la programmation qu'on avait en face.
Vous étiez déçu malgré tout en tant qu'actrice quand vous regardez ces chiffres-là? Vous dites toujours, bon, au regard de la qualité de cette fiction, on aurait mérité plus. Bon, c'est vrai que face au foot, vous pouvez pas faire grand-chose. Hein,
bah non, on a toujours envie de faire plus. Après, ouais, moi, je joue pas au ballon, qu'est-ce que vous voulez que je dise.
Mais c'est bien ça votre problème, Déborah François. Va falloir enfiler le maillot, être défenseur,
c'est
quoi.
Faire 5 minutes de fiction, 5 minutes de foot.
Non, mais ce soir, vous ferez sans doute beaucoup plus d'audience. Il n'y a pas de football en face de vous, normalement, donc voilà. On poursuit ces infomédias, Nathalie, avec une mauvaise nouvelle, malheureusement, qui touche Jean-Pierre Pernaut, l'ancien présentateur du journal télévisé.
Oui, Damien, c'est une nouvelle épreuve pour Jean-Pierre Pernaut. 3 ans après avoir vaincu un cancer de la prostate, l'ancien présentateur du JT de 13h affronte un cancer, cette fois au poumon, diagnostiqué en avril dernier. C'est son épouse Nathalie Marquet qui a confirmé hier cette information sur le plateau de TPMP. Alors, il faut savoir que Jean-Pierre Pernaut s'est également confié sur ce difficile combat qu'on découvre contre la maladie dans un documentaire intitulé « La vie d'après » qui sera diffusé jeudi 9 décembre sur C8 en prime time. Alors, en attendant, le journaliste poursuit des séances de radiothérapie actuellement et continue à assurer son émission « Jean-Pierre et vous » sur LCI.
Vous parliez du tabou des familles tout à l'heure, Déborah. Le cancer, c'est tabou aussi. Et c'est la raison pour laquelle Jean-Pierre Pernaut en parle publiquement. C'est pour tenter de lever aussi ce tabou-là. Est-ce que c'est bien justement que des personnalités révèlent publiquement qu'ils sont atteints d'une maladie? Est-ce que vous trouvez que cette démarche-là est
oui,
tout à fait honorable?
Après, c'est sûr que moi, je dirais pas qu'on doit le faire ou qu'on a un devoir de le faire. Mais bien sûr, s'ils décident de le faire... Je trouve ça hyper important parce que encore une fois, c'est des choses qu'on retrouve en fait dans la vie de tous les jours. On connaît tous quelqu'un dans notre entourage, soi-même qui a été touché par cette maladie. Donc oui, bien sûr. Oui. Moi, je suis pour lever les tabous. Vous savez, je pense que les tabous, ça fait que ajouter au problème. Donc plus on peut parler, mieux c'est.
effectivement. La parole, c'est effectivement ce qui délivre aussi. Oui. On termine ces infos médias, Nathalie, avec une très bonne nouvelle cette fois-ci. Voilà, on passe des mauvaises aux bonnes nouvelles et on termine sur une bonne note avec voilà, une bonne nouvelle pour la création audiovisuelle française.
Oui, j'ai envie de dire soyons chauvins pour une fois, Damien
et Déborah. Allez, chauvins.
Oui, lundi soir à New York, la série française 10% a reçu pour sa saison 4 le prestigieux prix de la meilleure comédie au International Emmy Awards.
Wow.
C'est donc la consécration pour la série de France TV créée par l'ancien agent de star Dominique Besnéard, portée par Camille Cotin. Dans la foulée, on a appris qu'il y aurait bien une suite aux aventures de la petite agence parisienne de stars, mais sans doute sous la forme d'un long métrage qu'on attend de voir. Avec sa diffusion sur Netflix, la série a été vue par plus de 200 territoires, c'est énorme, et 20 adaptations sont en cours de production.
Vous avez vu 10%, la série ?
J'ai regardé un peu la première saison, j'avoue que j'ai pas vu les
Vous n'avez pas vu la totalité
Mais par contre, je sais qu'elle a été énormément vue, parce que dès que je vois des gens qui sont anglais ou américains, ils me disent « Ah, you're French, have you seen Call My Agent ?»
Ah oui, c'est
donc
vrai,
je
c'est
sais que c'est un carton et c'est une super bonne nouvelle.
Et vous aimeriez y participer en tant que comédienne? C'est un peu un graal aussi de participer à ce genre de série, quand Dominique Besnéard vous appelle.
Je pense que c'est, au-delà du graal, je pense que c'est surtout très, très marrant. Quoi. Tous les gens qui ont participé m'ont dit que c'était une super ambiance, qui s'était vraiment bien marré, puis on retrouve des gens voilà, qu'on croise finalement, même si on n'est pas tous une grande famille et qu'on ne se connaît pas tous en tant qu'amis, mais c'est des gens qu'on croise, donc forcément c'est drôle quoi.
Bon, en tout cas, pour l'instant, on reste sur Sauver Lisa, c'est la fiction que vous avez tournée récemment et qui est en diffusion sur M6, on en parle tout de suite dans l'interview du Buzz TV. M6 diffuse ce mardi soir deux nouveaux épisodes de la série Sauver Lisa, donc c'est en première partie de soirée. Vous campez une mère qui a la garde de sa fille de 8 ans, son nouveau compagnon se déchaîne violemment sur l'enfant, et de temps en temps, d'ailleurs, il arrive aussi à la maman que vous interprétez de lever la main sur sa propre fille. Est-ce que l'on peut dire, sans trop se tromper, que votre personnage remplit parfaitement les critères de la mauvaise mère ?
Oui, enfin les critères de la mauvaise mère, de la maltraitance en fait, effectivement. Et moi, c'est ce qui m'intéressait aussi dans le rôle, parce que souvent j'ai joué des mères qui étaient très très maternelles, très douces. Je peux avoir très facilement cette douceur-là vis-à-vis des enfants. J'adore les enfants. Donc quand Yann Samuel m'a appelé et m'a proposé ce rôle-là, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant justement de me mettre dans cette position-là, et même de jouer avec cet enfant qui est Capucine. Capucine, elle est extraordinaire, quoi.
Donc, qui est incroyable.
Elle a été incroyable, et on a une relation qui est vraiment super. Elle a créé une relation qui est différente du coup avec Caroline, qui est différente avec moi, mais avec beaucoup de confiance. Donc ça, c'était le plus important pour moi.
C'est ça, c'est Capucine Sanson-Fabresse. Hein. Elle a 11 ans, en fait, cette comédienne. Elle joue une fillette de 8 ans. Malgré tout, même pour jouer, comment vous avez vécu en tant que comédienne les scènes de violence avec elle? Ça doit être assez compliqué, quand même. Quand vous frappez sur une petite enfant, même en tant que comédienne, ça fait quoi?
Honnêtement, c'était très dur. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi difficile. J'ai eu vraiment des moments entre les scènes qui étaient vraiment de violence. Évidemment, j'en avais parlé avec Capucine. Elle, tout allait bien, elle était hyper contente. Elle me dit « Oh, on va m'enfermer dans une poubelle, c'est vraiment génial !» Je trouve ça super.
C'est ça, c'est du premier épisode, effectivement.
Voilà, non, mais il y avait
une innocence aussi de sa part.
Oui, et puis un jeu, parce que voilà, tout le monde était évidemment hyper gentil avec elle, et on a essayé de la protéger au maximum. Mais c'est vrai que c'est pour moi que c'était compliqué, quoi, de se dire « Ok ». Et puis à quel endroit je m'arrête, à quel endroit on peut expliquer à Capucine pour que tout se passe bien, en fait.
C'était quoi la scène la plus compliquée?
J'avais vraiment peur pour elle. C'est une scène de violence avec elle où je l'attrape, je la secoue très fort. Je pense que c'est dans les premiers épisodes. Et je dois la taper avec un sac de course.
Oui.
Je rentre avec un sac de course et tout d'un coup.
C'est le moment où vous l'achetez dans la poubelle d'ailleurs.
Oui, mais je trouve que le pire à la limite de cette scène, au-delà des coups, le pire de cette scène, c'est que quand j'arrive, je surprends un geste déplacé.
Ouais.
Clairement un attouchement sexuel, hein,
oui.
disons les mots,
puisque
les mots sont importants. entre mon compagnon qui est maltraitant vis-à-vis de moi et de ma fille et elle. Et c'est sur l'enfant que je m'énerve. Je pense que vraiment, pour moi, c'est ça le plus violent, en fait.
Oui, parce que vous accusez votre enfant, en fait, d'aguicher, d'une certaine manière, votre compagnon, et vous lui dites, d'ailleurs, vous êtes en train de me le voler.
Je blâme une victime, déjà, et je blâme une victime de 8 ans. Ouais. Donc, c'est vraiment, psychologiquement parlant, c'est difficile. Mais je pense que c'est hyper important. Enfin, quand on prend ce genre de rôle, il faut l'assumer jusqu'au bout, en fait. Parce que c'est ce qu'on veut raconter. Et il se passe des choses qui sont mille fois pires dans la réalité. Donc pour moi, c'était important quoi, de le faire.
Allez, on va du côté des internautes. On est en direct sur la page YouTube de TV Magazine et sur lefigaro.fr.
Oui, justement, sur Twitter, Bruno nous demande justement, admettons que vous êtes mère, admettons que vous êtes mère un jour, quelle mère seriez-vous ?
Ah, quel genre de mère seriez-vous ? Est-ce que vous seriez la
même, pareil.
D'accord, ok, bah on va appeler la police tout de suite.
J'ai l'impression que je serais une mère. Je pense que le plus important pour moi, ce serait d'essayer de laisser le moins de traces possible sur mes enfants, c'est-à-dire plutôt leur donner la chance en fait de les connaître, parce que je pense que un autre être humain, c'est même si c'était mon enfant, c'est vraiment un autre être humain, et je crois que j'aurais envie de connaître, de lui laisser la place de quelles sont tes passions à toi, qu'est-ce que toi tu détestes, qu'est-ce que toi t'aimes, et sans que ça ait un rapport avec moi. On laisse toujours une influence sur les enfants, mais je pense que le travail, c'est d'essayer d'en laisser le moins possible et d'essayer de les faire grandir le plus possible et de se connaître eux-mêmes en fait, c'est le plus important.
Alors, c'est vrai que dans le rôle que vous interprétez dans Sauver Lisa, vous êtes vraiment glaçante, hein, sincèrement. Vous transformez, quoi. On vous a face à vous, enfin, face à nous, pardon. Oui. Mais dans ce téléfilm, franchement, on ne vous reconnaît pas. Comment on se glisse dans la peau d'une mère sans cœur aussi diabolique ? Comment on fait ?
Justement, moi, je ne pense pas que ce soit une mère diabolique, en fait. Ouais. Je pense que c'est quelqu'un...
Parfois, elle revient à la raison quand même, on sent.
Oui, c'est pour ça. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas eu les clés. Ouais. Et comme on le disait, la violence, elle ne sort pas de nulle part. Tout d'un coup, on ne se réveille pas un matin et boum, on est violent avec ses enfants. Mmh. C'est des choses qu'on a vécues. Et du coup, on ne nous a pas donné les vraies clés, en fait. C'est comme si on vous donnait un jeu de loi et on vous fait jouer avec les règles du Monopoly. Ouais. Vous n'avez pas les vraies règles, en fait. Donc, c'est ça le problème. C'est une mère qui est, j'essaye de le montrer plus tard dans la série, qui est désemparée, en fait. Elle se rend compte quelque part que, évidemment, ce qu'elle fait, c'est n'importe quoi. Elle ne devrait pas faire ça. Elle devrait être punie pour ce qu'elle fait. Mais elle n'a pas les clés, quoi. Elle ne sait pas, en fait, comment le faire. Et elle se rend bien compte que finalement, elle n'aurait jamais dû être mère. Qu'elle n'est pas, elle est pas faite pour faire ce travail de mère. Elle n'a pas... Ouais. Personne ne lui a jamais appris et personne ne lui tend jamais la main en fait, pour que les choses aillent mieux. On n'aide pas les parents comme ça. Il n'y a pas beaucoup de programmes qui sont faits.
Bien
justement.
Il n'y a pas de mode d'emploi pour être parent.
Non, il n'y a pas de mode d'emploi pour être parent, mais au-delà de ça, il n'y a pas de mode d'emploi pour arrêter d'être maltraitant, pour comprendre pourquoi on est maltraitant. Enfin, c'est tout un processus en fait. Donc, protéger les enfants, c'est bien et c'est l'essentiel. Mais quand même, éduquer les parents ou les aider, en fait.
Alors, c'est vrai que votre personnage, on peut dire qu'il est aussi sous l'emprise émotionnelle, je dirais, de son compagnon, Greg, qui est hyper violent. Hein. C'est vraiment, d'ailleurs, votre fille Lisa, du coup, dans la série, est devenue un peu le bouc émissaire de votre compagnon.
Ce qui montre bien que, pour eux, la violence est vraiment liée à l'amour. Quoi.
Bien sûr.
L'amour justifie, en fait, la violence, qui est une idée complètement... qui peut paraître complètement absurde à plein de gens, mais c'est ce qui se passe.
Ouais. Oui, c'est vrai, c'est ça. C'est une réalité qui s'ancre clairement dans la société. Vous, est-ce que vous avez déjà croisé la route de personnages aussi violents que ça ? Est-ce que vous avez déjà assisté à ce genre de scène personnellement, ou bien c'est quelque chose qui, heureusement, reste dans le domaine de la fiction pour vous ?
Assister à ce genre de scène, non. Mais je pense que finalement, quand on a un peu de feeling, ce genre de choses se sent. Ouais. En fait. On sent comment quelqu'un parle à ses enfants, on sent les attitudes qui peuvent être possessives, parce que c'est aussi posséder l'autre, finalement, c'est posséder l'autre et lui faire peur. En fait, la peur permet de contrôler, donc je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup dans le contrôle, et ce genre de choses, on le sent.
Vous l'avez déjà senti ?
Oui, bien sûr.
Dans la rue, dans...
Vous n'avez jamais senti ça nulle part, c'est vrai que...
Peut-être que je ne suis pas aussi observateur.
Avec le nombre d'enfants qui sont maltraités en France chaque année, je pense qu'on on a tous bien croisé quelqu'un qui est violent, et c'est vrai que ça ne se voit pas toujours.
Oui.
Parfois, ça se sent. C'est vrai que parfois, c'est assez insoupçonnable, parce que ça traverse aussi toutes les classes sociales.
Et c'est en ce sens que votre fiction est très intéressante, parce qu'effectivement, on ne va pas regarder forcément autour de nous si tel ou tel enfant est maltraité, mais par exemple, grâce à cette fiction-là, peut-être qu'on sera un peu plus attentif.
Oui.
Effectivement. Allez, on retourne du côté côté des internautes ?
Oui, alors déjà, Lucas nous dit qu'il a adoré les deux premiers épisodes et qu'il a trop hâte de voir la suite ce soir. Et sur Twitter, Rose nous demandait quelle éducation avez-vous reçue quand vous étiez petite ?
Ah, vaste question !
Ah là là, mais c'est vrai, c'est vaste comme question.
Il est question de ça, c'est vrai, dans la fiction.
Moi, j'ai un papa qui est commissaire de police, donc du coup, qui était plutôt strict.
Assez carré, quoi.
Assez carré, ouais. Mon papa est assez carré. Discipline, mais sans... Enfin, voilà, j'ai des parents qui sont très en soutien de moi. Et très... mon père est à la fois très strict et à la fois, c'est mon héros. Il est extrêmement tendre. C'est un homme très tendre, très, très doux. Donc ça contrebalance.
Alors, c'est vrai que dans la fiction, à travers le personnage de Caroline Anglade, qui est la maîtresse d'école, on sent que cette femme-là va tenter de venir en aide à la jeune fille, coûte que coûte. Ouais. Elle va aller très loin, d'ailleurs. On ne va pas spoiler pour ceux qui n'ont pas encore vu la série, qui ont l'intention de regarder en replay sur Sisplay. Mais comment va-t-elle faire pour lui porter secours, concrètement ? Comment ça va se passer, en fait ?
La première idée qui vient à tout le monde quand on voit ce genre de choses, c'est forcément soustraire la victime à son bourreau.
Bien sûr.
C'est l'envie qu'on a, ou en tout cas qu'on devrait avoir naturellement.
C'est l'envie animale, en tout cas. Pas très légale, on va dire.
Mais... Non, pas très légale, mais c'est vrai que c'est l'instinct, il est là. Et je pense que surtout, elle en vient à des choses aussi extrêmes, parce qu'elle essaye d'alerter autour d'elle, et c'est vrai qu'il n'y a rien qui bouge, en fait. Et c'est ça, souvent, qui... Enfin, le problème autour de soi, c'est pareil pour les violences faites aux femmes et les féminicides, enfin, il y a des alertes, mais toutes les alertes restent sans réponse. Donc il y a des boutons sur lesquels on peut appuyer. Encore une fois, le problème, c'est qu'est-ce qui se passe après qu'on a appuyé sur ce bouton ? Parce que si c'est des boutons qui sont reliés à rien, il n'y a pas de...
Et c'est ce qui est extrêmement révoltant quand on regarde cette fiction, c'est lorsqu'elle se pointe au niveau des services sociaux et qu'elle est face à une dame qui lui explique qu'il y a plein de dossiers empilés sur son bureau et qu'elle ne peut strictement rien faire parce que tout est urgent, elle est sous l'eau. Et puis après tout, on n'est pas certain qu'il soit question de violence.
Et puis les parents font finalement ce qu'ils peuvent. Et c'est vrai, tous les parents font ce qu'ils peuvent. Enfin, on n'est pas là pour pointer des gens, mais enfin la violence, c'est illégal.
Mais aujourd'hui, est-ce que les enfants victimes de violence sont
livrés ? On a tendance à l'oublier, c'est juste... Enfin voilà, c'est la loi, il y a des raisons pour lesquelles la loi ne permet pas ça.
Mais est-ce que les enfants aujourd'hui en France victimes de maltraitance sont clairement livrés à eux-mêmes ? Est-ce qu'ils sont en danger ? Quand on voit effectivement dans la fiction que les services sociaux sont complètement inactifs, c'est de la fiction, mais on comprend que ça s'ancre aussi dans la réalité. Est-ce qu'aujourd'hui en France, un enfant qui est victime de maltraitance, il est en danger, clairement ?
C'est pas toujours le cas. Heureusement, les services sociaux font des choses, mais c'est vrai qu'il n'y a pas assez d'argent, ils n'ont pas assez de moyens. Et oui, je pense que quelque part, les enfants sont en danger, qu'on ne les protège pas assez, en fait. Dû aussi à ce truc de la cellule familiale où on ne peut pas aller, où on dit toujours « Ah ben non, ce qui se passe entre parents et enfants, c'est entre eux. » Comme on se dit, ce qui se passe dans un couple, ça ne regarde personne. Oui. Quand c'est de la violence, quand c'est illégal, ça regarde tout le monde, ça regarde la société.
Et les chiffres donnent le vertige. Hein. En France, un enfant meurt tous les 5 jours sous les coups de ses parents, ce qui est énorme.
Et si un enfant, imaginez si un enfant meurt tous les 5 jours. Ça veut dire que le nombre d'enfants qui sont maltraités et violemment frappés tous les jours est énorme.
Oui, parce que heureusement, il ne meurt pas tous les jours, mais ça veut dire effectivement que derrière, c'est un peu l'arbre qui cache la
forêt. Un enfant qui meurt, ce n'est pas un enfant qui a été frappé pour la première fois.
Et qu'est-ce que, selon vous, il faudrait faire en fait pour que cela cesse ? Vous êtes interrogé justement en marge du tournage de cette fiction. Est-ce que vous avez réfléchi un petit peu en tant que citoyenne, si j'ose dire, à ce qu'il faudrait faire ?
J'ai l'impression que c'est une question de budget et de moyens alloués à ça, que ça doit être vraiment devenir une grande cause nationale, et une vraie grande cause nationale sur laquelle on fait vraiment des choses, on met de l'argent sur la table, on met de l'expertise sur la table. Et peut-être, crever un peu cette idée finalement magique qui protégerait les familles parce que ça ne nous regarderait pas, parce qu'après ces gens-là, ils grandissent, et ça ne devient pas toujours des gens qui sont bien dans la société parce qu'ils n'ont pas les clés.
Allez, une dernière question des internautes ?
Oui, c'est une question cinéma sur Twitter. Ah. Arthur se souvient que vous aviez, quand vous aviez reçu les Césars, il se souvient que c'était Antoine Decaune qui présentait, qui était à la cérémonie. En février prochain, il revient à ce poste. Qu'en pensez-vous, bonne ou mauvaise idée ?
Ah, vous pensez que je vais avoir un nouveau César, c'est ça ?
J'espère, mais bien sûr, c'est prévu d'ailleurs, on a l'info.
Moi, je trouve qu'Antoine, c'est du bonheur, c'est du caviar quand c'est lui qui présente.
Vous gardez quel souvenir d'ailleurs de votre passage justement sur la scène des Césars ? C'est incroyable.
C'était complètement incroyable. J'ai pas vraiment cru quand on a dit mon nom. Ouais. Et en plus, je me souviendrai toujours, c'était Gaspard Huyel qui remettait le César. Et du coup, il me regardait comme ça avec le César. J'ai commencé à monter les escaliers. J'ai failli me planter. Mais vraiment me vautrer. Je savais plus ce qui m'arrivait. J'étais complètement. Il m'a donné le truc. Je pense que j'ai fait ah oui, merci. Enfin voilà, j'étais complètement. C'était très, très impressionnant, tout le cinéma français. Dans la salle et tout ça, la télé, j'étais avec ma grande sœur d'ailleurs, c'était un très très joli moment.
Alors le cinéma, vous tournez toujours hein, pour le cinéma, mais c'est vrai qu'au cours des dernières années, on se rend compte que vous avez multiplié les tournages pour la télévision. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'en multipliant les téléfilms et les séries pour la télé, vous fermiez les portes du cinéma ?
Non, je pense que ça maintenant c'est devenu très fluide. Ouais. Ça aurait pu être le cas il y a une dizaine d'années. Mais aujourd'hui, entre la télé, les plateformes, le cinéma, il y a vraiment une fluidité de genre qui se fait beaucoup plus. Ouais. Donc, vraiment,
cette espèce de snobisme entre la télé et le cinéma, ça n'existe plus aujourd'hui ?
Non, j'ai l'impression que les plateformes ont un peu brouillé les pistes sur tout ça. Ouais. Et aussi le fait que les gens regardent beaucoup de séries, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Donc du coup, il y a des budgets qui sont un peu similaires de tous les côtés et on essaye justement de partager un peu les acteurs, de faire un petit peu des choses dans tous les sens. Et en télé, en plateforme, ça va beaucoup plus vite qu'en cinéma. On met très longtemps à préparer un projet pour le cinéma, à monter les financements et tout ça, ce qui n'est pas forcément le cas en télé et en plateforme, mais ce qui peut être bien pour nous les acteurs aussi.
Ben nous, malheureusement, cette interview touche déjà bientôt à sa fin, donc on va devoir aborder notre dernière rubrique, en toute franchise. Bon, c'est facile, on vous pose une série de questions et puis comme le nom l'indique, il faut que vous y répondiez avec le plus de franchise possible. Alors, première question, quel est le plus beau souvenir de votre carrière ?
Le plus beau souvenir, sans doute la première projection de L'Enfant, mon premier film à Cannes.
Avec les frères Dardenne, c'était
ça ? Avec les frères Dardenne. Ouais. Et honnêtement, je peux le dire aujourd'hui, on a fait un carton.
C'est bon, vous pouvez le dire en toute modestie.
On a fait un carton. Non, c'était dingue. C'est la plus grande salle de cinéma de France. Il n'y avait que des gens de l'industrie et tout ça. Et il y a eu, en fait, ces quelques petites secondes à la fin du film. Le film se termine par un noir assez violent. Donc, du coup, les gens sont un peu étonnés que ce soit la fin. Et il y a eu ces 3 secondes qui ont duré, mais... un milliard d'années dans ma tête où je me suis dit ils détestent, ils disent rien, ils détestent, et puis paf, et tout le monde s'est levé, a commencé à applaudir et tout ça. Je me suis retournée, il y avait des gens qui pleuraient et tout, donc c'était incroyable. Mais j'ai eu un moment de ils ont détesté, ils m'ont détesté.
Ça y est, c'est fini, j'ai plus de carrière.
Quel serait à l'inverse le pire souvenir de votre carrière ?
Le pire souvenir Non, c'est pas facile parce que...
Ou le plus gênant ou le...
Après, il y a eu des souvenirs difficiles de tourner. Je pense que le plus difficile, c'est les conditions météo. C'est les moments où on a vraiment hyper froid, où on est en jupe, où on doit jouer comme si c'était le printemps. Et en fait, on est en plein novembre et il fait super froid. Après, comme toutes les actrices, j'ai pu avoir des propositions pas très ragoûtantes, qui n'étaient pas très amusantes. Donc ça, c'est pas les meilleurs moments, mais c'est pas, heureusement, il ne m'est rien arrivé de grave. Donc.
Et comment on fait face à ce genre de propositions pour peut-être des futures actrices qui sont en train de nous regarder ? Comment on fait pour gérer ce genre de choses ? Parce que ça arrive souvent, on a beaucoup d'actrices qui sont sur ce plateau et qui nous partagent ce genre d'expérience.
Que ce soit chez les actrices ou chez les femmes en général qui travaillent, dans tous les milieux, il n'y a pas vraiment, tout dépend des situations et tout ça. Mais encore une fois, essayer de ne pas se taire, en fait. Ouais. D'en parler, de chercher de l'aide autour et de ne pas se taire en protégeant, en fait.
Et vous avez pu en parler, justement ?
Oui, j'en ai parlé, bien sûr. Ouais.
Allez, autre question. Est-ce que vous avez une manie ou bien un toc avant d'entrer sur un plateau de tournage ?
Moi, j'ai un toc, c'est que je me touche tout le temps les oreilles.
Ah, vous touchez tout le temps les oreilles ? Oui. En fait, c'est parce que vous avez une plaque d'eczéma.
Je me touche tout le temps les oreilles. Non, mais si vous regardez ici, je suis rouge. Je suis souvent rouge dans les films ici parce que je me touche tout le temps les oreilles. Donc ça, c'est un peu mon.
Donner du fil à retordre au maquilleuse, c'est ça.
Voilà. Et puis sinon, non, écouter un peu de musique de temps en temps. Ouais. Moi, je reste beaucoup sur les plateaux. Hein. Je prends jamais de pause, très peu de pause dans les loges, dans les trucs. J'adore être là, même quand je tourne pas. J'ai l'impression que c'est chez moi, quoi.
Ouais. Pour vous imprégner aussi un peu de l'atmosphère, j'imagine.
Oui, et puis je suis là, je parle aux gens, ouais. Je vais les faire rire, je vais les embêter, je vais demander à l'ingé son un casque, je vais écouter, je vais faire des blagues. Enfin, j'ai envie d'être avec l'équipe, ouais. En fait.
Avez-vous une ou un mentor, Déborah ?
Les frères Dardenne.
Ah oui, forcément, c'est eux qui voilà.
Vous ont offert le premier jamais, à tout jamais, bien sûr.
Parrain.
Évidemment. Ouais.
Autre question, si vous n'aviez pas été comédienne, quel métier auriez-vous pu exercer ?
J'aurais voulu être prof.
Être prof, c'est vrai ?
Ouais, j'aurais voulu être prof. En fait, j'hésitais, j'ai commencé à 17 ans, donc c'est vrai que j'ai rien fait après le bac. Enfin, j'ai rien fait, j'ai fait mon métier après le bac, mais j'ai pas fait d'études. Et j'allais commencer des études, j'hésitais entre littérature et sciences politiques.
Ah, donc soit prof de
Mon grand fantasme, c'était de faire sciences politiques, de sortir dans les premières, de pouvoir faire la Sorbonne à Paris.
Et première ministre de la Belgique, sans problème. C'était
pourquoi
ça
le... pas.
Pourquoi pas,
pourquoi pas.
On aurait voté pour vous.
Ça changerait en fait.
Qu'est-ce qui vous déplaît le plus dans votre caractère ou votre apparence physique ?
Mes pieds.
Ah, c'est vrai ?
Ouais, j'ai les pieds de travers.
Ah non, écoutez, ça arrive, on vit très bien avec, apparemment.
Ah voilà. Écoutez, tant que je peux marcher, tout va bien.
Bah écoutez, oui.
Non, mais c'est vrai, j'ai déjà plusieurs fois, deux ou trois fois, ça m'est arrivé des réalisateurs qui voulaient faire des plans sur les pieds.
Ah, c'est vrai ?
Ouais, et je leur disais, ça va pas être possible.
Non.
Je disais, ah, ça va. Et à chaque fois, ils essayaient de me convaincre et tout ça. Et je leur disais, non, non, mais en fait, tu vas les voir et tu vas pas vouloir les filmer. Et ils me disaient, non, non, mais c'est ça, ben montre. Ok. Je montrais, ils disaient. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'équipe qui veut faire le... J'étais là, bon, bah voilà.
Oh non, c'est pas possible. Je suis sûr qu'il y a des réalisateurs
qui filmeraient
vos pieds.
Par contre, on a fait plein de plans sur mes mains. Du coup, j'ai pas tout perdu, vous voyez.
Mais c'est compliqué de marcher sur les mains aussi. C'est un peu difficile.
C'est vrai, mais un jour, dans une avant-première, on m'a dit, Déborah, à chaque fois, quand vous faites la tourneuse de page, on filme vos mains. Quand vous faites populaire, on filme vos mains. Est-ce que vous pensez que vous avez une intelligence de la main?
Ah, ouais.
Et j'avais trouvé ça, c'est une de mes meilleures questions.
Bon courage pour répondre à cette question aussi. Hein. Franchement, c'est métaphysique. Autre question. Quel est l'objet le plus précieux que vous possédez ?
Oh, c'est une bonne question.
Peut-être sentimentale, ou j'ai envie de vous dire, certains nous disent leur téléphone portable.
Non, je vais vous faire une réponse très pragmatique. C'est mon appartement.
Ah oui ?
Parce que je l'ai tellement attendu, je l'ai tellement espéré à Paris. Pour moi, c'était vraiment le signe que... pas que j'étais arrivée, mais en tout cas que j'allais passer un step dans ma carrière et que j'étais sûre d'avoir un toit, en fait, tout simplement, un toit dans cette ville où c'est pas évident d'avoir un toit.
C'est le parcours du combattant.
Les prix sont très élevés, ou c'est le parcours du combattant, je suis une intermittente, donc je donne pas forcément confiance aux banques, etc.
Exactement, c'est vrai, ça.
Et c'est vrai que venant de Belgique et d'une famille de classe moyenne tout à fait, c'était le grand truc de mes parents, c'est est-ce qu'on va pas pouvoir avoir un toit, et je pense que c'est vraiment le plus important pour moi. Pendant des années, je me suis promenée en taxi dans Paris et je regardais que les immeubles, en fait, je regardais.
Un jour, ce sera pour moi.
Un jour, il y a un de vous, ce sera pour moi. Donc voilà, j'ai un appartement depuis pas longtemps et j'en suis très contente.
On peut terminer en musique. Quelle est la chanson que vous écoutez en boucle en ce moment ?
Black Sheep.
Black Sheep. Connais pas. Ouais. Connais pas, on doit être honnête avec vous.
De Jean Wigmore.
De Jean Wigmore, on connaît
pas. Je vous ai séché là.
Ouais. Ah, vous nous avez séché. De toute façon, on va la supprimer cette question-là parce que dès lors que l'invité donne le nom d'un artiste, on ne le connaît jamais. C'est un problème, on ne peut pas rebondir. On va être honnête avec vous. Bon, écoutez, on écoutera après cette interview, c'est tout. On sera moins inculte après. Merci beaucoup, en tout cas, Déborah François, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle qu'on vous retrouve dans Sauver Lisa, donc c'est la série diffusée sur M6 ce mardi en première partie de soirée. Merci encore d'avoir accepté notre invitation.
Beaucoup.
Merci Nathalie pour les news médias et les questions internes. Et nous, on se retrouve demain avec une productrice qui va proposer un documentaire sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale sur des femmes victimes de violences, elles aussi, mais ce sont des femmes, cette fois-ci, qui vont réparer des victimes. C'est très intéressant. Il s'agit de Mélissa Thoriot qui sera avec nous demain sur ce plateau. En attendant, on vous souhaite une excellente journée et à demain pour un nouveau Buzz TV.
Nos ados ont vu tous les Miyazaki, ils rêvent qu'on les emmène au Japon.
Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio.
Incroyable ! Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone.
Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé.
Waouh !
Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel.
Oh, je nous y vois déjà.
Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.